La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Un mot revient souvent dans les titres des journaux européens ce matin et c'est le mot « crise ».
Oui, l'Union européenne à nouveau en crise et c'est une crise sérieuse de surcroît, comme la qualifie le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ce lundi, le budget de l'Union de 1800 milliards d'euros pour les 7 prochaines années, incluant le plan de relance spécial pandémie de 750 millions, ce budget donc a été bloqué par deux États membres, à savoir la Hongrie et la Pologne. Alors on pourrait s'emporter d'emblée sur l'inconséquence de ces gouvernements dits illibéraux d'Europe centrale, qui empêche l'Europe d'avancer dans le sens de la solidarité et de la résilience, mais il faut aussi reconnaître une chose avec la FATS. La Hongrie de Viktor Orban, qui mène cette fronde, avait prévenu dès le 5 novembre qu'elle opposerait son veto au budget européen. Elle n'acceptait pas cette mesure rajoutée à la loi de finances commune, la conditionnalité du versement des fonds européens au respect par les gouvernements des règles élémentaires de l'état de droit. Un véritable chantage ourdi sur mesure contre Budapest par la présidence allemande de l'Union européenne. Voilà comment s'emporte dans la presse hongroise la ministre de la Justice, Judith Varga. Elle rappelle que Bruxelles, mais aussi donc Berlin et Paris, n'ont rien fait pour éviter le veto attendu d'hier et porte donc la responsabilité de ce budget qui s'est écrasé dans le mur. La conditionnalité liée à l'état de droit pour la ministre hongroise interviewée par le journal en ligne Index, c'est une arme d'extorsion indigne des règles communautaires. C'est tout bonnement mettre de vagues critères idéologiques et politiques à la solidarité européenne. Alors on pourra lui rétorquer avec El País par exemple à Madrid que des principes comme l'indépendance de la justice ou la liberté de la presse, l'état de droit en somme, ce ne sont pas des idéologies vagues mais bien le socle des valeurs communes de l'Union. Le gouvernement Orban a là aussi une réplique dans les colonnes du quotidien conservateur Magyar Hírlap. Il affirme, je cite, qu'à Budapest, on est aussi profondément attaché à ses valeurs que dans le reste de l'Union, mais que c'est aux Hongrois et à eux seuls, pas à Bruxelles, qu'il revient de dire si ces valeurs et l'état de droit sont correctement appliqués dans leur pays.
Et on voit donc que cette crise-là fait ressurgir des désaccords de fond sur la mécanique communautaire.
Et c'est bien ce qui inquiète le site Politico Europe. La crise est institutionnelle. Ce n'est pas comme si on découvrait aujourd'hui que certains États d'Europe centrale ont leur propre vision de ce que c'est que d'être membre de l'UE. Mais là, forcément, quand ça bloque des milliers de milliards d'euros de budget, c'est à se demander si, je cite toujours Politico, on ne serait pas là face à la crise de trop. Surtout quand on sait avec quelle difficulté la présidence allemande a dû négocier pendant des semaines, voire des mois, pour mettre tout le monde d'accord sur le plan de relance coronavirus. L'Union européenne est donc bel et bien dans l'impasse, à la croisée des chemins, analyse un diplomate européen cité là encore par Politico. Qu'on le veuille ou non, pour débloquer le budget, eh bien il va falloir trouver un moyen de ramener Budapest dans le bateau et donc faire des concessions sans doute sur le principe même de la conditionnalité et de l'état de droit. À Budapest, Viktor Orban le sait bien, comme ses alliés polonais à Varsovie, alliés polonais dont le raid aux côtés des Hongrois ne fait pas l'unanimité dans la presse de Varsovie. Sur le portail d'infos et de commentaires honnêtes, l'éditorialiste Michał Broniatowski fustige la position de son gouvernement qui, par solidarité mal placée avec Budapest, provoque une crise énorme au sein de l'UE pour, dit-il, des raisons purement symboliques. Il s'agirait, selon Broniatowski, de s'afficher dans la dissidence avec l'universalisme des valeurs libérales affichées par Bruxelles, d'affirmer sa souveraineté nationale sur les questions des libertés et de l'équilibre des pouvoirs, montrer une voie alternative très à droite, en somme, contre Berlin et Paris principalement. Tout ça, conclut Michał Broniatowski sur Honnête, donc, pour contrer un mécanisme de conditionnalité qui, si on y regarde vraiment de près, contient tellement de garde-fous qu'en fait, il ne risque pas de s'appliquer de sitôt, ni en Pologne, ni en Hongrie.
Et aux États-Unis, le processus de recomptage des bulletins de vote de la présidentielle est toujours en cours dans l'État de Géorgie.
Avec deux informations reprises dans la presse américaine pour vous donner une idée de la tension qui règne autour de cette opération. Sur le site de Fox News, on apprend qu'à la faveur de ce recomptage manuel qui devrait durer jusqu'à demain, on a découvert un lot de 2600 bulletins de vote qui n'ont tout bonnement pas été comptabilisés lors du premier dépouillement. Forcément, ça fait le miel des supporters de Donald Trump qui crient aux fraudes électorales depuis le 9 novembre mais qui n'ont jusque-là pu apporter aucune réelle preuve. Sauf que, modère Fox News, sur un état comme la Géorgie, fort de 5 millions de votants. Ce genre d'erreur n'est pas exceptionnel, malheureusement, et surtout, il n'est pas forcément intentionnel. Et puis, en Géorgie, Joe Biden l'a emporté avec plus de 14 000 voix d'avance. Alors, ces 2600 bulletins oubliés dans un coin ne changeront rien au niveau national. Mais il y a surtout cette accusation portée par le secrétaire d'État de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger. Il a révélé hier au Washington Post une conversation troublante qu'il a eue avec un proche de Donald Trump, le sénateur Lindsey Graham, lequel lui a demandé si on ne pourrait pas tout simplement jeter certains bulletins de vote tout à fait légaux, les faire disparaître à la faveur du recomptage pour modifier le résultat final. Tout ça a été suggéré sur le ton de l'allusion sans en avoir l'air, explique l'élu républicain Raffensperger, mais c'était suffisamment clair pour qu'il s'en émeuve contre son propre camp, donc dans la presse. Depuis, bien entendu, Lindsey Graham a démenti toute tentative de faire pression frauduleusement sur le recomptage. Il qualifie ces accusations de ridicules, mais comme nous le rappelle Richard Verli, qui couvre la présidentielle américaine pour Le Temps suisse, ce ne serait pas la première fois que Brad Raffensperger serait mis sous pression par le camp Trump. Il vit même, nous dit Richard Verli, un calvaire depuis qu'il a refusé de crier aux fraudes et a reconnu la défaite du président sortant dans son état de Géorgie. Il fait partie, Brad Raffensperger, de ces élus républicains qui ont décidé de ne pas suivre le président sortant dans son déni, dans son raid sur l'élection. Des élus républicains qui se retrouvent aujourd'hui honnis au sein de leur propre parti politique.